Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous. Écho d'ici, écho d'ailleurs, pendant ce mois de juillet, revient sur les faits marquants de cette première partie de l'année 2022. La guerre en Ukraine, bien sûr. Depuis la fin du mois de février, les sanctions toujours plus sévères contre la Russie, sanctions contre le pétrole, le gaz, le charbon russe, contre le secteur financier, des sanctions qui d'ailleurs ne font pas l'unanimité. Un bras de fer géopolitique qui a poussé de nombreuses entreprises étrangères à quitter la Russie et à renoncer à des marchés juteux. Quels sont les enjeux qui entourent ces décisions? On va y revenir dans quelques instants. Nous ferons ensuite un détour par l'Inde, puissance montante, et par le Pakistan. Et nous nous pencherons enfin sur un secteur devenu porteur du fait de la pandémie de Covid-19, le secteur pharmaceutique, les industries de la santé, les grands laboratoires accumulent les profits, un écosystème s'est créé, y compris en Afrique, ce sera notre dossier. Bonne émission à tous, à la radio ou sur Internet, via nos applications mobiles. Isoler Moscou, plus que jamais, punir Vladimir Poutine pour ses crimes. Depuis le fameux 24 février et l'offensive militaire ordonnée par le maître du Kremlin, les Occidentaux s'attaquent à tous les secteurs économiques de la Russie. L'avenir, à moyen ou à long terme, dira si c'était la bonne stratégie. Car il y a des risques pour ceux qui veulent sanctionner une telle puissance, le risque de manquer de ressources énergétiques, le risque aussi d'affaiblir des entreprises implantées en Russie. Elles sont nombreuses à y avoir cessé leurs activités, mises sous pression des opinions publiques et des dirigeants politiques. D'autres ont décidé de rester pour le moment. Comment analyser ce dilemme entre respect de la morale, des droits de l'homme d'une part, exigence des actionnaires, l'emploi des salariés d'autre part? Quelle est la responsabilité géopolitique des entreprises? On va s'intéresser aux entreprises françaises. Au mois d'avril, nous en parlions avec une spécialiste, Nathalie Belloste, professeure de géopolitique à l'école de management de Grenoble. Bonjour Nathalie Belloste.
Bonjour.
D'abord un témoignage, celui du patron de Cifal, société française implantée à Moscou, spécialisée dans le commerce international. Elle travaille en Russie, en Asie centrale, en Chine, au Moyen-Orient, en Afrique. Des projets dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du transport, des hautes technologies. Son patron accompagne, conseille des groupes français qui travaillent avec la Russie. Bonjour Gilles Rémy.
Bonjour.
Première question, pourquoi rester à Moscou malgré les multiples pressions des politiques, de l'opinion? Est-ce que cette position est facile?
Écoutez, facile, si je vous disais facile, vous ne me croiriez pas. Pourquoi rester à Moscou? Parce que pour un certain nombre de Français, pour un certain nombre d'entreprises, ce sont des années, des dizaines d'années de coopération, d'échanges, d'échanges humains. Et on ne ferme pas une porte avec un pays qui restera de toute façon un pays voisin en la claquant. Donc pour un certain nombre, c'est un choix effectivement réfléchi que de rester en Russie. Oui.
Vous avez des amis entrepreneurs à côté de vous qui ont changé d'avis, qui sont partis?
Non, des entrepreneurs, tout le monde reste. Ceux qui en revanche font le choix ou en tout cas sont obligés de partir, ce sont souvent des cadres de grandes entreprises qui sont venus pour des durées des missions ou des durées de quelques années. Mais ceux qui ont créé leur entreprise en Russie ou qui sont spécialisés dans les échanges avec la Russie depuis parfois plusieurs décennies, ceux-là, je ne connais aucun cas de départ.
Pour vous, on est passé dans une autre dimension par rapport à 2014, par rapport à l'époque de la guerre en Crimée.
Oui, oui, carrément, c'est une autre dimension. Aujourd'hui, même quand il faudra bien que la paix revienne à un moment ou à un autre, mais on ne reviendra pas à l'état précédent. C'est une phase historique, une période historique nouvelle qui va s'ouvrir, alors avec une réorientation très, très, très rapide des échanges, et donc ça sera un nouveau monde. C'est la fin de la mondialisation.
Vous nous dites que le commerce international va changer. Est-ce qu'il va se réorienter vers l'Asie, comme on le dit beaucoup aussi, l'axe Russie-Chine?
Oui, alors la Chine, bien sûr, peut y avoir des accords gagnant-gagnant entre les deux, parce que la Russie a aussi est en pointe dans certains secteurs, mais c'est pas seulement la Chine, hein, c'est que on voit bien que la réorientation se fait en direction de la Turquie. La Turquie va être un grand gagnant de ce conflit, de l'Inde également, qui, quoi qu'on en dise, a des positions très ouvertes en direction de la Russie, et puis un Moyen-Orient qui, on le voit à Dubaï, où tout est fait pour accueillir les Russes, leur faire acheter des appartements. Vu d'ici, la Russie n'est pas un pays assiégé et sans échanges internationaux.
Merci Gilles Rémy.
Je vous en prie.
Gilles Rémy, patron de Cifal, une entreprise française basée à Moscou, une position qui interroge en pleine guerre. Nathalie Bellost, vous qui enseignez la géopolitique à des futurs chefs d'entreprise, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Notre chef d'entreprise, notre patron, parle d'un choc pour les milieux d'affaires, mais la volonté de continuer à faire du business.
Oui, alors il a raison sur une chose, c'est que la crise qu'on traverse, elle est sans précédent. C'est-à-dire que pour la première fois, on a un niveau de sanctions économiques qui est arrivé très vite et de façon massive. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette arrivée des sanctions très 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 rapidement, beaucoup plus que dans d'autres cas. Par exemple, dans la Syrie, ça avait été quand même beaucoup plus long. Donc ça, c'est la première chose. Il a tout à fait raison. Après, c'est sans précédent. Parce que les entreprises, elles vont être soumises à des dilemmes. Et je pense qu'on a tous bien compris, bien sûr, de se dire que deviennent mes actifs, donc d'évaluer leurs propres risques financiers. Et puis également le risque légal, c'est qu'est-ce que je risque à rester sur place? Donc, par rapport à l'arsenal juridique que nous avons, nous, par exemple, en France, on a, par exemple, le cadre de la loi Sapin 2, la loi du devoir de vigilance, qui nécessite de prévenir les risques graves aux droits de l'homme, à la sécurité, bien sûr, des salariés et de l'environnement, et qui s'applique non seulement à l'entreprise elle-même et à ses filiales, mais également à ses sous-traitants. Donc il y a déjà ce cadre légal qui est intégré, mais qu'en même temps, qui est intégré j'allais dire, dans des moments où il n'y a pas forcément la guerre en face. Et puis le troisième problème auquel les entreprises vont devoir faire face, c'est le risque réputationnel. Donc qui
On
est...
va en parler dans quelques minutes. Vous parliez effectivement du caractère subi de cette guerre. Il y a une difficulté pour un chef d'entreprise de prendre une décision dans l'urgence. Il n'y a pas beaucoup de temps là où effectivement on vous dit, enfin en tout cas l'opinion publique dit c'est maintenant ou jamais.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Il n'y a pas que l'opinion publique, d'ailleurs, puisque voilà, les entreprises françaises, en tout cas certaines d'entre elles, se sont aussi fait prendre à partie par le président ukrainien. Donc oui, c'est la difficulté de la rapidité d'action et qui, de toute façon, ce qu'on apprend aussi à nos étudiants, c'est que quand on prend une décision, on ne sait jamais si elle sera vraiment bonne ou mauvaise. C'est-à-dire qu'on essaie sur le moment de prendre la moins mauvaise décision. Donc, d'où l'urgence actuellement, c'est d'essayer vraiment de comprendre ce contexte, ce triptyque entre le risque financier qu'il va falloir assumer, le risque légal, bien entendu, par rapport au cadre juridique que nous avons, et puis le risque réputationnel.
Avec une difficulté aussi, se dégager d'investissements parfois très lourds. On pense par exemple à Total, qui a vraiment besoin du marché russe, qui a besoin des ressources de la Russie.
Ah oui, tout à fait, avec des niveaux d'investissement qui sont très très importants et comme le rappelait votre intervenant précédent, Monsieur Rémy, il y a une longue un long travail depuis des années sur le marché russe, comme beaucoup d'entreprises françaises. Quand on regarde, on est actuellement en train de faire une étude avec des collègues. La plupart des entreprises du CAC 40 ont des relations avec la Russie de longue date et donc un niveau d'investissement important. Donc oui, ça va poser une difficulté. Plus les montants vont être importants et plus la décision de partir va être très très délicate.
Sur cette question, on va dire, de la position des entreprises dans cette crise, je voudrais que l'on écoute quelques secondes Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur sur France Inter.
Vous savez, une entreprise, bien sûr, c'est des salariés, c'est aussi des actionnaires, mais c'est aussi des parties prenantes. Et l'entreprise, elle ne travaille pas que pour ses actionnaires. Vous savez, on travaille beaucoup sur la raison d'être. Une entreprise, ça dépasse uniquement le seul intérêt des actionnaires. Les actionnaires sont là, ils sont importants.
Ça peut
les
avoir
clients
des valeurs
aussi. Mais aussi les valeurs. Et donc juste, je voudrais rendre hommage à un très grand nombre d'entreprises qui ont pris ces décisions, qui continuent du reste à payer leurs salariés en Russie bien qu'elles ont cessé l'activité, qui prennent aussi des risques d'élimination des actifs, du coût des actifs. Ça va être lourd d'un point de vue économique.
Voilà pour ces propos de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Actionnaire, rentabilité, emploi des salariés versus morale, droit de l'homme, raison d'être. Comment on analyse ça, Nathalie Bellost ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Effectivement, il y a un contexte qui fait que depuis les 20 dernières années, les questions de responsabilité sociale de l'entreprise sont devenues de plus en plus importantes dans le cadre de l'exercice des fonctions des différents dirigeants. Et aussi, c'est ce qu'on attend, ce que les différentes parties prenantes, ce dont M. Breton parle, ce qu'elles attendent aussi de leurs entreprises. Donc, on n'attend plus uniquement de la rentabilité financière, on attend aussi un certain comportement. Alors après, dans le comportement des entreprises, il y a des choses qu'elles font dans le cadre de la loi, et puis des choses qu'elles peuvent faire en plus en se disant « bah oui, là, on est vraiment dans un cadre de mission et de responsabilité sociale ». Le fait de continuer à payer ses salariés sur place, effectivement, c'est un dilemme. C'est-à-dire le fait de partir fait que voilà, les gens, non seulement vont plus être payés, mais il y a aussi une obligation légale derrière. Il ne faut pas oublier que les entreprises qui pourraient décider de partir de Russie sont aussi contraintes de payer leurs salariés, parce que sinon, ce serait considéré comme un abandon de leurs actifs, et ça pourrait être tombé sous le coup de la loi et leur le faire en sorte qu'elle soit préemptée, c'est-à-dire on risque la nationalisation. Donc il y a un double élément, et sur lequel on peut aussi jouer par des éléments de langage. Donc néanmoins, cette existence de la pensée, j'allais dire, politique de l'entreprise, voire même, je dirais, géopolitique, elle s'impose de plus en plus.
C'est la doctrine de la rentabilité aussi qui est remise en cause, avec ce poids, on le disait tout à l'heure, de la réputation. Une entreprise n'est pas là que pour faire de l'argent.
Oui, en tout cas, c'est toujours quand même sa mission de base, mais de nouveaux éléments sont venus se joindre à ça, sur lesquels les entreprises ne peuvent plus considérer ne pas avoir de réaction sur la question. Bien sûr, le risque réputationnel, et qui pèse d'autant plus, et on le voit notamment beaucoup dans la presse, ce risque réputationnel pèse d'autant plus qu'on est une entreprise où il est facile de boycotter les produits. Donc la grande conso, par exemple, en fait partie. Là, il y a également une façon, un élément important aussi qui permet de mettre une pression importante sur ces entreprises pour leur rappeler à certains engagements qu'elles peuvent prendre de façon consciente et déterminée dans leur, dans leur rapport annuel, et de leur redire, regardez ce que vous avez dit, donc maintenant agissez en fonction de ce que vous avez déclaré.
L'image, la réputation, Nathalie Bellost, on pense par exemple au constructeur automobile Renault. Vendre des automobiles, c'est souvent basé effectivement sur un rapport étroit, sur une réputation. Faire un geste tel que l'a fait Renault, c'est pas forcément évident.
Non, c'est effectivement assez difficile. Il serait intéressant de regarder, en prenant un peu de recul, comment sont passées les décisions des entreprises par rapport à la structure qu'elles ont sur place. Le nombre d'employés, le nombre de magasins. Vous citiez Renault, ils font 12% de leur chiffre d'affaires en Russie. Vous avez des entreprises qui, comme Danone, ont 8000 personnes et à peu près 13 usines, ou la holding de Leroy Merlin, qui est ADO, c'est 45000 personnes et 113 magasins. Donc vous voyez, tout le monde n'est pas placé à la même enseigne. Et c'est ça qui va être très difficile, c'est-à-dire on peut toujours regarder ce que fait son voisin, mais vont jouer aussi les actifs qui sont présents sur place.
Est-ce que cette situation, c'est aussi une des conséquences de la mondialisation, avec des entreprises qui s'installent un peu partout sur la planète ?
Oui, tout à fait. Alors, je dirais de la mondialisation, mais aussi d'une vision de la mondialisation, un peu la mondialisation heureuse avec le doux commerce. Plus on va faire de commerce, plus mieux ça va se passer, plus ça va pacifier les zones, pas en conflit, mais où il y a des inégalités, parce que le fait de développer le commerce un peu partout va permettre d'augmenter le niveau de vie, et donc tout le monde va être heureux et tout va bien se passer. Or, on a sous-estimé, à mon sens, et les entreprises françaises comme les autres, on n'est pas mieux lotis ou moins bien lotis, mais les entreprises ont eu tendance à sous-estimer justement les questions géopolitiques. C'est-à-dire à ne pas comprendre, à mal comprendre deux choses, c'est-à-dire les relations interétatiques auxquelles qui elles restent avec leur représentation et leurs inimitiés, et puis également le caractère polémogène des décisions prises par les entreprises à l'étranger. Alors quand je dis polémogène, ça ne veut pas dire qu'on a envie de mur, bien au contraire, non, c'est pas comme ça ça qu'on s'imagine. Mais chaque décision peut avoir des conséquences non maîtrisées.
Mmh. Et les Ouïghours, Uniqlo par exemple, toutes ces entreprises qui ont été embarquées un peu malgré elles dans cette situation.
Oui, alors il y a eu, alors le malgré, c'est toujours un petit peu compliqué, mais néanmoins, il y a un manque de compréhension du contexte quand on va à l'étranger. Je pense c'est un grand problème de compétences géopolitiques dans la formation, je pense, des gens qui y travaillent. C'est-à-dire de se dire, j'arrive dans quel contexte? Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que mon investissement, par exemple, va pouvoir changer en bien ou en mal? Souvent, on se dit, bah oui, en bien, le fait d'apporter un emploi ou de mettre une usine, c'est bien, mais ça peut déstabiliser plein d'autres choses. Mmh. Et ça, on s'en rend pas compte. Mmh. Donc, et puis de comprendre, bien sûr, les enjeux, les agendas des différents acteurs, eux, politiques, les États en particulier, mais il y en a d'autres, qui, eux, regardent probablement aussi l'activité des entreprises assez différemment.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un déficit de préparation? Est-ce qu'il faut mieux former les cadres des grandes entreprises?
Oui, notamment sur ces questions-là. Oui, là, je pense que ça en est... Un exemple assez flagrant. Donc, parce que là, que font les entreprises actuellement? Elles font de la gestion de crise. Mais en fait, ce qui compte, c'est que c'est bien d'anticiper ces gestions de crise, de travailler aussi avec de la prospective, des scénarios, et de se dire, bon, voilà, cette mondialisation telle qu'on l'a imaginée, il y aura d'autres endroits sur la planète, et cette crise va être certainement le révélateur d'autres crises à venir. Donc, comment est-ce qu'on peut à minima les anticiper? On peut pas dire qu'on peut savoir ce qui va se passer. Bien malin est celui qui va pouvoir exactement faire de la prédiction. C'est pas ça dont on parle, mais de se dire, bon, légitimement, quelles sont les autres zones qui peuvent être déstabilisées et comment est-ce qu'on peut se préparer, quels sont nos actifs là et qu'est-ce qu'on peut faire si jamais cette zone est déstabilisée.
Vous avez parlé tout à l'heure de la Syrie, il y a eu l'Afghanistan, ou il y a l'Afghanistan en ce moment, le Sahel aussi.
Oui, tout à fait. Les questions que tout le monde se pose pendant cette crise russo-ukrainienne, c'est l'avenir éventuellement de ce qui va se passer en mer de Chine, avec Taïwan, la Chine. Ça, c'est vraiment aussi ces questions-là. Et puis aussi tout ce qui peut se passer, point de vue de possibles révoltes frumentaires liées à la question de l'augmentation du coût de la vie dans certains pays, notamment le Moyen-Orient, le Maghreb, où les situations sont déjà compliquées et où des crises possibles pourraient apparaître.
Voilà, le message est lancé aux représentants des grandes entreprises, aux cadres des grandes entreprises. Formez-vous, préparez-vous aux futures crises. Merci Nathalie Bellost.
Merci à vous.
Nathalie Bellost, professeure de géopolitique à l'école de management de Grenoble.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Et pour illustrer les difficultés d'une entreprise étrangère dans un pays instable, rendons-nous maintenant au Pakistan. 220 millions d'habitants, cinquième pays le plus peuplé au monde, toujours confronté au terrorisme, le pays traverse une crise économique et politique qui encourage assez peu les investisseurs étrangers. En avril 2021, le gouvernement français avait appelé ses ressortissants et ses entreprises à quitter provisoirement le Pakistan en raison, je cite, « des menaces sérieuses qui pesaient sur les intérêts français ». C'était une réaction aux manifestations anti-françaises organisées à l'époque par des islamistes. Sonia Ghezali, notre correspondante, s'est entretenue avec Olivier François. C'est le directeur général de deux grands hôtels à Karachi.
C'est vrai que les difficultés sont nombreuses. L'administration est très très pénalisante. Toutes les démarches administratives se font beaucoup par clientélisme. Et donc il faut connaître un tel ou un tel pour pouvoir accéder à des documents ou à des visas de travail de façon plus rapide et plus efficace. Autrement, sans quoi on travaille dans un pays où le système économique, où l'État est assez défaillant. Et donc c'est l'entreprise qui s'occupe de l'ensemble des choses. J'ai des exemples comme ça par dizaines. Le dernier en date, j'ai une de mes responsables qui a perdu son père ce matin d'ailleurs. L'assurance ne voulait plus le prendre en charge. Il n'y a pas de sécurité sociale au Pakistan, ou alors de façon très très minime. Et donc hier soir, on a fait un chèque de 600 000 roupies pour que son père puisse être admis en urgence. Et en fait, le pauvre homme est décédé ce matin. Résultat des courses, on est sur un système où l'entreprise se substitue quasiment à l'absence d'État et de support de l'État. Voilà.
Le Pakistan est un pays en voie de développement avec des infrastructures insuffisantes. Comment gérez-vous les défis logistiques ?
La fourniture de gaz ayant disparu quasiment, passant de 100 à 20-25 % d'approvisionnement, nous avons dû repenser notre système de gaz et donc passer en gaz LPG avec des fournisseurs privés qui, bien évidemment, ont une tarification largement supérieure. L'électricité est coupée de façon assez régulière à Karachi. Cette nuit, nous avons une coupure de courant pendant 3 heures. Le groupe électrogène doit fonctionner. Donc, bien sûr, des consommations de diesel qui sont assez importantes. Cette nuit, on a consommé 250 litres de diesel. L'eau qui est coupée à peu près 3 à 4 heures par jour à Karachi. Là aussi, c'est compliqué. Donc, voilà. Il faut se substituer au service public. Il faut se substituer à l'État. Et il faut quasiment vivre avec le système D. Voilà. C'est un peu ça.
La sécurité s'est améliorée à Karachi, mais le risque terroriste existe toujours et la criminalité est galopante. Quel impact cela a sur votre activité ?
Côté étranger, côté investisseur, oui, effectivement, ça représente un peu un frein parce qu'ils ont toujours cette crainte de terrorisme et de manque de sécurité. Et de ce fait, ils envoient des agences pour repérage des lieux, pour voir si l'hôtel est en conformité de sécurité. Nous, on a une chance, c'est que l'hôtel démarre au R plus 1. Donc, si on avait une attaque terroriste, effectivement, le rez-de-chaussée permettrait de faire barrage. Et on a la chance d'être validé et certifié par l'Union européenne, par les Nations unies. Ça aide bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte et ce pincement. J'ai signé tout récemment un contrat avec une agence, une compagnie française. Et ces gens-là sont extrêmement prudents et ils ont fait faire au préalable une visite de l'hôtel par leur comité de sécurité pour savoir si l'hôtel était conforme d'un point de vue sécuritaire.
Merci Olivier François.
Olivier François, le directeur de deux grands hôtels à Karachi, des propos recueillis par Sonia Ghezali, notre correspondante dans la région. C'est le pays voisin, l'Inde, un pays qui prend de plus en plus d'importance sur l'échiquier diplomatique et économique, un pays qui certes souffre de ces inégalités sociales aggravées par la crise sanitaire, le chômage, la faiblesse de l'outil industriel, mais un pays tiré par le secteur des technologies. Les patrons de Google, de Microsoft, d'Adobe, d'IBM sont d'origine indienne. La diaspora indienne, particulièrement présente dans certains pays africains comme l'Ouganda. Sur les 10 hommes d'affaires les plus riches du pays, 5 sont de nationalité ou d'origine indienne. La communauté contrôle certaines grandes entreprises du pays et offre de nombreuses opportunités aux nouveaux arrivants. Reportage à Kampala, en Ouganda, de notre correspondante Lucie Mouillot.
Dans le large entrepôt au nord de Kampala, au milieu de ses salariés en combinaison verte, Jitu Soratia vérifie les différents produits qui sortent des machines hautes de plusieurs mètres de haut. Emballage plastique, sacs poubelles, verres et assiettes à usage unique. Depuis la création de son entreprise il y a 12 ans, l'homme d'affaires originaire de l'ouest de l'Inde a fait un long chemin.
When I started, very few people was collecting the plastic. They didn't have the modern machinery. Because in India there is lot of competition, so you cannot survive in small capital. If you do in Uganda with a small capital, you will survive easily because here the profit margin is good. So that's why I start the manufacturing of the plastic.
Arrivé en 2003, Jitu Soratia est passé d'un travail de comptable payé 150 dollars par mois à la création d'une entreprise de 500 salariés. Un parcours rendu possible par l'aide de la communauté indienne, forte de 30 000 personnes en Ouganda.
We get the guidance and knowledge from each other. We share each other the how to do and how to plan. And sometimes we are business partner. We make a business chain, networking chain. So all the big industries, they need a small industries.
En Ouganda, la communauté indienne est présente dans presque tous les secteurs de l'économie, en particulier dans l'agriculture, l'industrie et l'hôtellerie. 65% de toutes les taxes collectées sont payées par des entreprises ou des citoyens indiens, parfois dans le pays depuis des générations.
Hey, Nirav, how are you?
Téléphone toujours à l'oreille, Ali Azhar Jaffer, directeur du Fairway Hotel, l'un des plus luxueux établissements du centre de Kampala, représente cette communauté historique en Ouganda.
So my family immigrated here in the 1800s. They came here as traders. And this house used to belong to my great grandfather. In the 1960s, my grandfather was here and he wanted to turn this into a hotel. When Idi Amin came into power, The family fled, and the fairway was taken over by the government. And then in late 1980s, early 1990s, my grandfather came back. From the 2000s, my father also joined the business. And then today, I've also come. I've been here for 12 years now.
Selon le directeur de l'hôtel, l'Ouganda offre de nombreuses opportunités pour la communauté indienne, des opportunités qu'il n'aurait jamais eues après ses études au Canada.
In Canada, I think I would have succeeded more either as a consultant, an employee, or as being a partner into something. It's a lot more difficult to start something in the Western world with, it's just a lot more expensive, it's a lot more difficult. Here, there's so many opportunities. First few months were very challenging, but I loved it out here, I was doing well. So 1 year turned into two, turned into five, and now I've been here for 10 years plus.
Dans le restaurant asiatique de son hôtel, Ali Azhar Jaffer pense désormais à l'avenir, prochain projet pour l'homme d'affaires, investir dans le secteur agricole. Mais ces grandes entreprises représentent un défi pour Joseph Biomouanji, coordinateur de l'UCCA, le consortium ougandais pour la responsabilité des entreprises. De nombreux cas de violation des droits du travail et des droits humains concernent des compagnies indiennes.
There have been challenges largely around casualization of labor. It is a very big problem in the businesses run by the Indian communities here. People are working without contracts, without clear terms of payment, without taking sick leave. The other human rights challenges result from the plantation agriculture. Most of the Indian community businessmen run sugar plantations. So we have done research that looks at child labor specifically. It has been a problem and it was worsened by COVID-19.
Selon Joseph Biomouanji, la responsabilité des entreprises n'est presque jamais rappelée par la justice, car les longs délais pour obtenir une audience découragent de nombreuses victimes.
Reportage à Kampala, en Ouganda, de notre correspondante Lucie Mouillot.
RFI, les voix du monde.
2022, année du début de la fin de la pandémie de Covid-19, c'est ce que beaucoup espéraient. Avec la progression de la vaccination, certes très hétérogène dans le monde, une crise sanitaire qui s'installe dans la durée et aura ouvert de nouveaux marchés économiques. Les grands laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, BioNTech et Moderna ont ainsi touché le jackpot. Quelles sont les recettes industrielles de cette réussite? Quels sont les enjeux pour les États qui négocient des contrats? Quelle place donner à l'innovation? Comment la financer? Où se situe l'Afrique en retard dans le développement de ses industries pharmaceutiques? Nous en parlions dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec Nathalie Coutinet, économiste de la santé, maîtresse de conférence à l'Université Paris 13.
Breaking news tonight, the major step toward making COVID booster shots available to all adults. Pfizer officially asking the FDA.
La compañía farmacéutica americana Pfizer, el hecho de que su primera vacuna contra el coronavirus puede ser.
Les marchés financiers se sont littéralement emballés hier suite à l'annonce.
C'est le jour qui a fait basculer l'industrie pharmaceutique dans une autre dimension. 9 novembre 2020, Pfizer annonce que son vaccin contre le Covid est efficace à 90%, espoir mondial et enthousiasme des marchés financiers. Nathalie Coutinet, les industries pharmaceutiques, ce que certains appellent le Big Pharma, ont touché le jackpot à ce moment-là?
Ah oui, c'est sûr que trois d'entre elles, hein, Moderna, Pfizer et BioNTech, ont effectivement touché le jackpot. On évalue pour 2021 les bénéfices avant impôts à 34 milliards de dollars pour ces trois entreprises. C'est effectivement une situation inédite qui n'a jamais produite jusque-là.
Ça fait plus de 1 000 $ par seconde, c'est ce qui a été calculé, ça paraît énorme.
Oui, c'est ce que dit. Oui, c'est énorme parce que l'importance de ce vaccin et le fait que le monde entier se le soit arraché, en tout cas au début, fait que effectivement, on a des bénéfices qui sont extrêmement élevés pour des entreprises qui, pour certaines, ont été largement financées par les États.
Et ça interroge sur le prix des vaccins, le prix qui a été fixé et les négociations justement avec les États.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, on estime qu'il faut à peu près un peu moins de 1 $ pour Pfizer BioNTech pour produire une dose de vaccin, qui sont vendues à autour de 20 $ dans les pays riches. On voit bien le bénéfice que fait Pfizer sur chaque dose de vaccin qui est vendue et administrée dans les pays développés. C'est donc effectivement une situation complètement folle, hein, d'une certaine manière, compte tenu du nombre de vaccins et de doses qui ont été administrées depuis un peu plus d'un an maintenant.
Est-ce que ces grands laboratoires ont intérêt à ce que cette crise se termine ?
Non, de toute façon, de manière générale, les industries pharmaceutiques font des bénéfices sur les maladies. Donc plus on est malade, d'une certaine manière, plus évidemment les firmes pharmaceutiques font des bénéfices. Donc c'est une aubaine pour ces entreprises. Alors ça ne veut pas dire qu'elles aient évidemment déclenché la pandémie, mais c'est effectivement une aubaine et on pense qu'il y a à peu près 50 personnes qui sont devenues milliardaires grâce à cette pandémie. Donc effectivement, certaines personnes se sont très fortement enrichies.
Quelle est la recette d'un point de vue industriel de ces laboratoires? Pourquoi ont-ils réussi plus aux États-Unis qu'ailleurs? Est-ce que les Américains ont été plus audacieux? Est-ce qu'ils ont investi plus tôt dans la recherche et développement dans ce domaine des vaccins?
Alors non, c'est plutôt l'Europe qui est traditionnellement le continent du vaccin. D'ailleurs,
la France, en l'occurrence.
Alors là, on n'a pas réussi, mais on fait quand même partie globalement d'habitude des pays dans lesquels il y a des vaccins. L'Europe, c'est 70% du marché du vaccin. Et d'ailleurs, BioNTech est une firme allemande et l'ARN messager a été découvert dans les universités françaises, allemandes et hongroises. Donc la découverte de ce vaccin, en tout cas pour le vaccin Pfizer-BioNTech, reste une découverte européenne, si je puis dire. Pour Moderna, c'est effectivement différent. Moderna est une firme américaine, une start-up américaine, puisque ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que BioNTech et Moderna n'existaient pas. C'était des start-up qui n'avaient pas de médicaments dans ce qu'on appelle leur pipeline, c'est-à-dire dans les ventes, ne vendaient pas de médicaments. Pfizer, en revanche, est une big pharma installée depuis des années et un des leaders mondiaux de la pharmacie. Donc, on voit qu'aujourd'hui, finalement, ce sont les startups qui découvrent les médicaments et qui ensuite, avec des associations avec des grands laboratoires, des big pharma, eh bien, les médicaments sont testés, puis on demande des AMM, puis ils sont mis sur le marché.
Et aujourd'hui, ce sont les Américains de Pfizer qui viennent investir en France. On a eu cette information il y a quelques jours, une usine en France qui va fabriquer du vaccin Pfizer.
Oui, parce que là, la situation de quasi-monopole dont dispose Pfizer lui a permis d'engranger effectivement des bénéfices monstrueux et puis va accroître sa puissance dans les années à venir. Ça, c'est vraisemblable. Et c'est vrai aussi que ce qu'on appelle l'écosystème, même si j'aime pas tellement ça, de la recherche et développement en pharmacie, est aujourd'hui beaucoup plus aux États-Unis qu'elle n'est en Europe.
L'innovation, elle est effectivement au cœur de ce sujet. La santé, pour la première fois, avait d'ailleurs son espace réservé au CES de Las Vegas, le grand salon de la tech qui s'est tenu dans l'ouest des États-Unis. Comment lutter contre le virus? Comment vivre avec? Loïc Piala, notre correspondant, a rencontré quelques startups pleines d'imagination.
Le CES a une section réservée aux startups Eureka Park. La French Tech, comme elle est surnommée, y occupe toujours une place centrale. Même avec le Covid, quelques 140 startups françaises ont fait le déplacement jusqu'à Las Vegas. Parmi elles, Aéronest. Cette société bretonne a mis au point un petit ventilateur pour masque. Le salon lui donne l'occasion de courtiser des distributeurs américains et du monde entier. Julien Boiteau, porte-parole d'Aéronest.
L'air est aspiré à l'intérieur du masque, il est filtré par les tissus filtrants. Il va vous offrir un petit flux d'air qui va permettre d'améliorer votre respiration. Ça va aussi annuler la buée sur les lunettes. Ça va vous permettre d'éviter de transpirer. Ici, vous avez une petite batterie qui va tenir de 10 à 12 heures et qui sera rechargeable en USB.
Il faudra encore plusieurs semaines au produit pour arriver sur le marché. Prix envisagé, une quarantaine d'euros. Une campagne de financement participatif est en cours. Le timing n'inquiète pas Julien Boiteau.
On a tous envie que le Covid s'arrête. On n'en est pas encore débarrassé, donc il y aura un long moment où on va être encore obligé de porter les masques. Et tous les personnels de santé, etc., qui, même post-Covid, sont contraints de porter le masque tout au long de la journée et donc ils sont très intéressés par l'Aéronest.
Pendant qu'Aéronest essaie de rendre le port du masque plus agréable, Optive s'attaque à une autre contrainte du coronavirus, les tests. Cette entreprise installée dans le Maryland assure détecter la présence du Covid en 5 secondes et sans enfoncer un coton-tige jusqu'au fin fond de nos narines. Son appareil, appelé le Freedom, Liberté en français, analyse la respiration, un simple embout de masque à oxygène raccordé à une sorte de pistolet en plastique.
Red, lumière rouge,
you are COVID positive.
Vous êtes positif au Covid.
Green, you are not.
Verte, vous ne l'êtes pas.
Conrad Bessemer est le fondateur d'Optive.
C'est à nous de contrôler le Covid plutôt que laisser le Covid nous contrôler. On appelle l'appareil Freedom parce qu'il nous ramène au monde d'avant, à ce passé plus simple où vous sortiez, où vous vous amusiez, sans penser à mettre un masque. Aller au restaurant, ne vous inquiétez pas. Participer à un événement comme le CES, ne vous inquiétez pas. Mais on ne veut pas restreindre les tests. Au contraire, vous devriez vous tester le matin, avant le déjeuner et le soir.
Une cartouche permet d'effectuer environ 200 tests avant d'être remplacé. Le prix de 315 € devrait diminuer avec le temps, tout comme la taille de l'objet. L'objectif est d'en faire l'équivalent d'une cigarette électronique, facile à garder sur soi et à transporter. Autre curiosité du salon, une table antivirus venue tout droit de Corée du Sud. À première vue, elle ressemble à une table de jardin classique surplombée d'un parasol. Mais comme l'explique Jae Dubeng de la société Storrent, le petit espace entre les quatre sections de la table crée un rideau d'air protégeant les convives.
Vous voyez cette ligne entre chaque morceau de table. L'air sort de là et souffle de bas en haut. Ici, un système d'UV détruit le virus et les bactéries. Et puis, on a un système d'aspiration pour chasser le virus et les bactéries avec la circulation de l'air.
Le modèle est déjà disponible en Corée du Sud pour environ 1 300 €. Une version intérieure coûte plus du double. Se protéger du Covid a un prix. Loïc Piala, Las Vegas, RFI.
Le rêve du monde d'avant, on l'a entendu avec ses interlocuteurs. On a tous envie que le Covid s'arrête. Nathalie Coutinet, c'est tout un écosystème qui s'est créé autour de cette lutte contre le virus. Des petites entreprises qui se sont greffées autour des grands laboratoires pharmaceutiques.
Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment le nouvel écosystème de la pharmacie, de beaucoup de startups qui gravitent autour des grosses compagnies pharmaceutiques et donc qui vont développer des produits de santé, des médicaments qui seront ensuite acquis par ces laboratoires importants.
Ce qui pose la question du financement. Alors, on a entendu qu'il y a des financements participatifs. Il peut aussi y avoir des financements publics. Et ça, c'est clairement le rôle des États avec des différences potentielles selon les pays.
Alors, c'est le rôle de l'État. C'est là où c'est à définir. On a vu que le gouvernement américain, via la BARDA, ce qu'on appelle la BARDA, a fortement financé les recherches sur le Covid. Il y a eu aussi des financements via des organismes philanthropiques, comme la CEPI, la fondation de Bill Gates. L'État français a peu, finalement, investi dans le vaccin Covid. C'est vrai que les États participent de manière générale à la recherche en pharmacie via les universités, en France, le Crédit Impôt Recherche. La question qui se pose après, c'est que si les gouvernements participent fortement à ces innovations, comment gérer des droits de propriété aussi exclusifs à donner à certaines firmes et qui leur permettent de faire des profits faramineux, on l'a dit, souvent sur le dos des organismes de remboursement, parce que il faut bien comprendre qu'en France, eh bien, c'est la sécurité sociale qui va payer et qui paye pour les vaccins, les tests, etc. Et donc, c'est finalement nos cotisations sociales, nos contributions sociales qui font les bénéfices de ces grosses entreprises pharmaceutiques, alors que les États ont participé au financement de la recherche.
L'économiste Nathalie Coutinet est l'invitée d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. On parle des industries de santé qui ouvrent de nouveaux marchés partout dans le monde. Et on va partir en Afrique, qui tente de rattraper son retard en Tunisie. Précisément, grâce à un vivier de médecins et d'ingénieurs, souffle un vent d'innovation. Notre correspondante, Amira Souilem, a rencontré deux entrepreneurs qui sont à la tête d'InnoDep. Cette start-up utilise l'intelligence artificielle pour la médecine.
Café qui coule à flot, locaux design et bière de rigueur. Cet incubateur d'entreprises tunisois arbore les standards internationaux avec fierté.
Donc là, on va où ?
Troisième étage. Ça s'appelle Digital Transformation Center Tunisie.
Ingénieur de formation, Mustapha Hamdi s'est entouré d'un ami radiologue pour mettre en place un outil innovant. Ensemble, ils ont récupéré des dizaines de milliers de radios de patients atteints de pathologies diverses. À chaque fois qu'il reçoit un nouveau cliché, leur logiciel le compare instantanément à ceux qu'il a déjà en mémoire. Il est alors capable de donner un premier avis médical.
Par exemple, pour les fractures, c'est d'une grande aide parce qu'on n'a pas toujours un radiologue qui peut checker les images d'un traumatisme à l'heure où le malade, il passe aux urgences. C'est-à-dire, par exemple, le malade, il passe à 3 heures du matin. Le radiologue, il ne sera pas là à 3 heures du matin pour checker quelqu'un qui est tombé ou qui a eu un choc ou quoi que ce soit.
À terme, ce sont surtout les cancers que les deux partenaires espèrent déceler plus précocement. Alors que la Tunisie manque de radiologues dans les régions intérieures, ils voient dans leur outil un moyen de combler la fracture médicale qui existe dans leur pays, mais aussi ailleurs en Afrique.
Par exemple, un pays comme le Rwanda, malgré toute la croissance qu'il a, ils ont 12 médecins radiologues, ce qui est très très insuffisant. On a des contacts par pas mal de pays africains, notamment de la Côte d'Ivoire, la Guinée et tout, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, ces pays-là, ils sont vraiment en pénurie.
La jeune pousse est hébergée aujourd'hui dans une structure franco-allemande basée à Tunis. Pour grossir, elle part rejoindre un incubateur à Monaco. Pour Mostafa Hamdi, la Tunisie pourrait devenir un hub d'innovation important du continent africain, mais ce potentiel reste gâché.
C'est un pays en fait qui tourne à deux vitesses, malheureusement. Il y a la vitesse de la jeunesse, de l'innovation. Et puis après, là, il y a la vitesse de l'administration classique, qui reste toujours déphasé. On reste un peu bloqué par le texte de loi pour pouvoir tout simplement innover.
Une législation que les entrepreneurs espèrent voir évoluer rapidement, d'autant que leur pays traverse une grave crise économique. Amira Suilem, Tunis, RFI.
On entend bien, Nathalie Coutinet, ce besoin, cette envie chez des entreprises qui travaillent dans le domaine de la santé de s'internationaliser, de travailler avec l'étranger. Ça n'est pas toujours facile, par exemple là en Tunisie.
Non, c'est sûr. Et puis de toute façon, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique est très peu présente en Afrique par rapport à sa présence dans d'autres continents. Donc il y a effectivement un problème d'accès au traitement en Afrique qui ne pourra être résolu qu'en développant des entreprises, hein, du médicament et des produits de santé, comme l'exemple du reportage que vous avez diffusé. Et ça, c'est extrêmement important et urgent. Alors, toutes les conditions ne sont pas forcément réunies dans tous les pays, mais il y a une exigence et il y a quand même des pays dans lesquels, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Je pense à l'Égypte qui développe aussi une cité médicale. Il y a l'exemple que vous avez dans l'Afrique du Sud. Il y a aussi une industrie pharmaceutique au Maroc, au Nigeria. Donc, il y a des industries pharmaceutiques qui sont présentes et qu'il faut renforcer et pour lesquelles il faut sans doute faire aussi du transfert de technologies pour accélérer le développement de cette industrie africaine.
Dans le cas du reportage qu'on vient d'entendre, c'est de la recherche contre le Covid, mais c'est de la recherche contre bien d'autres maladies. Là, on parlait par exemple du cancer.
Oui, oui, tout à fait. Et les scientifiques africains sont tout à fait effectivement capables, comme partout ailleurs, de développer des innovations. Ensuite, il faut bien sûr qu'ils aient les conditions pour le faire. Et ces conditions, elles sont pas toujours réunies, ce qui pousse sans doute ces entreprises à partir. Mais et aussi, dans certains pays d'Afrique, il faut investir dans les maladies qui sont les plus présentes dans ces pays-là. Et c'est aussi ce que font certains pays, en Afrique du Sud par exemple, l'essentiel de la recherche est faite vers le sida et la tuberculose. Donc il y a une orientation différente aussi de la recherche parce qu'elle n'est pas suffisante dans les pays riches pour venir à bout des pathologies des pays du Sud.
Et le paludisme, bien sûr. Pour approfondir sur le cas africain, on va accueillir Olivier Roger du service économie de RFI. Bonjour Olivier.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors, à titre de comparaison, il existe en Afrique 375 fabricants de médicaments qui sont répartis dans 37 pays. C'est une analyse du cabinet McKinsey, contre 10 000 en Inde et 5 000 en Chine. Quels sont les pays d'Afrique où c'est le mieux développé l'industrie pharmaceutique?
Oui, en fait, il existe deux bastions de l'industrie pharmaceutique en Afrique. D'abord l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, et ensuite l'Afrique du Sud. Ces pays couvrent entre 70 et 80% de leurs besoins en médicaments. Si l'on prend par exemple l'Égypte, qui possède le plus grand nombre d'usines, 140, 11 groupes publics travaillent dans le secteur pharmaceutique ainsi que 22 multinationales, mais le pays importe la quasi-totalité des principes actifs, des machines-outils, des emballages. La recherche et le développement sont encore très peu développés. Au Maroc, où une quarantaine d'entreprises opèrent dans le secteur pharmaceutique, on fabrique essentiellement des génériques et des produits sous licence. Même chose pour la Tunisie. Seule exception, le sud-africain Aspen, qui fait figure de Big Pharma à l'échelle mondiale. Il est le seul industriel africain implanté à la fois en Europe, en Amérique et en Asie. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'entre 2000 2000 et 2018, l'industrie pharmaceutique africaine a vu sa taille multipliée par 5 et le secteur croît de 10% chaque année, ce qui fait de l'Afrique un marché dynamique et promis à un bel avenir.
Et puis après 2018, il y a donc eu cette crise Covid. Est-ce que, Olivier, ça a été un moment de rupture sur le continent africain ?
On peut le dire dans le sens où le Covid a accéléré la prise de conscience au niveau de l'Union africaine, prise de conscience qu'il faut se doter d'une industrie pharmaceutique plus performante et plus développée. Le Covid a accéléré les processus de décision, les méthodes. Il suffit par exemple de penser au guichet unique mis en place pour l'importation des respirateurs, des masques et des vaccins. Et le Covid accélère enfin le travail réglementaire au sein de l'Agence africaine du médicament. C'est un point très important. Preuve que cette prise de conscience est effective. En 2 ans à peine, l'Afrique du Sud s'est dotée de 2 sites de conditionnement de vaccins anti-Covid et elle vient d'inaugurer mercredi la première usine du continent, on l'a vu, qui fabrique de A à Z les vaccins. Reste que le chemin est encore long pour l'Afrique du médicament car le continent importe toujours très majoritairement ses médicaments et ses produits pharmaceutiques.
Merci Olivier. Nathalie Coutinet, effectivement le chemin est encore long en Afrique. C'est sans doute le cas dans d'autres régions du monde. Il faut des capitaux pour développer une industrie de santé, une industrie pharmaceutique.
Oui, je voulais même ajouter que, à ce qui vient d'être dit, hein, c'est que l'Afrique du Sud, qui est le premier exportateur pharmaceutique africain, représente 0,05% du total des exportations pharmaceutiques. Donc la place de l'Afrique, hein, reste encore très faible dans la production de médicaments, bien qu'effectivement ce soit des marchés en forte croissance. Alors bien sûr, ce sont des marchés qui souffrent de manque de capitaux et puis parfois aussi de manque d'infrastructures ou d'infrastructures pas suffisamment fiables pour développer des industries des médicaments qui sont très sensibles, des questions de température, des questions de conditionnement et qui font parfois défaut dans certains pays et qui sans doute constituent un handicap pour l'industrie pharmaceutique, bien que, encore une fois, il y a une forte croissance et que les pays africains se mettent, et c'est une excellente chose, à produire des médicaments. Il faut maintenant qu'ils se tournent vers la production de principes actifs, mais on a finalement le même problème en Europe. On importe la même proportion de principes actifs en Europe et en Afrique, autour de 80%. Ces principes actifs qui sont produits en Chine et en Inde. Et donc là, il faut, pour la souveraineté de chacun de ces pays, réorienter cette production vers les pays qui seront les consommateurs, si je puis dire, de ces molécules.
Puisqu'on a parlé de la question des capitaux, et ce sera ma dernière question, Nathalie Coutinet, on assiste en ce moment à une reconfiguration de ce paysage pharmaceutique mondial avec de grosses entreprises qui en achètent d'autres ou qui achètent des plus petites. Voilà, le puzzle se constitue petit à petit.
Oui, et c'est un puzzle qui marche depuis d'ailleurs les années 90 sous la forme de ce qu'on appelle de fusion-scission comme espèce de mécano industriel. Avant, on avait des grandes firmes chimiques et pharmaceutiques qui sont devenues des firmes pharmaceutiques et qui aujourd'hui se spécialisent sur certaines pathologies. Et il y a des exemples de fusion actuelle ou de fusion-scission puisque Unilever, qui est un grand fabricant de produits diversifiés, eh bien rachète la branche de GlaxoSmithKline, la branche de médicaments, ce qu'on appelle OTC, c'est-à-dire médicaments sans ordonnance. Donc on voit qu'il y a des fusions, des acquisitions et un recentrage, une réorganisation des firmes pharmaceutiques qui vont pas du coup forcément être plus grosses, mais qui vont être très spécialisées, importantes et spécialisées sur certaines pathologies ou certaines recherches comme le cancer ou les maladies du système nerveux central.
Nathalie Coutinet, économiste de la santé, maîtresse de conférences à l'Université Paris 13. Dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, on ne manquera pas de revenir dans les prochains mois sur ce secteur devenu stratégique. Nous verrons notamment si la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid annoncés par l'Organisation mondiale du commerce se confirme. Disons-nous à la semaine prochaine. Nous parlerons de l'une des autres grandes tendances de cette année 2022, le développement des crypto-monnaies et autres monnaies numériques, désormais encadré par les États. Restez à l'écoute, restez connectés sur RFI et RFI.fr. Un nouveau journal tout de suite. Portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.